Il est midi.
France Info, 10h, 14h, Édouard Barguier.
Et bon appétit si vous écoutez France Info, la France qui s'apprête à commencer la vaccination contre le Covid. Aurélien Tirard pour l'info.
Bonjour à tous. Oui, les premières doses sous bonne escorte sont arrivées en France avant les premières injections demain dans deux EHPAD. Elle aussi est arrivée en France, la variante britannique du virus plus contagieuse. Premier cas confirmé à Tours. Cela risque de compliquer les choses pour faire diminuer rapidement le nombre de cas de Covid dans le pays. Branle-bas de combat en cette veille de lancement de la vaccination contre le Covid en France. Les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ont été livrées tôt ce matin. 19 500 doses, soit 3 900 flacons en tout, sont arrivées en provenance de Belgique. Direction la banlieue parisienne, dans un hangar de la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris, Mathilde Vinceneux.
Oui, c'est dans ce hangar, hein, le lieu est tenu secret, qu'ont été livrées les premières doses ce matin à l'aube par un camion arrivé tout droit de l'usine Pfizer en Belgique. Premier hangar à recevoir les doses du vaccin en France, donc. Trois autres livraisons sont prévues aujourd'hui sur des plateformes pharmaceutiques à Lille, à Tours et en région lyonnaise. Ici, ce sont donc quatre cartons qui ont été livrés. 3 900 flacons au capuchon violet conservés dans de la glace carbonique. Deux pharmaciennes équipées de gants ont ensuite transféré les doses dans des super congélateurs. Le vaccin doit être conservé entre moins 60 et moins 80 degrés. La température est contrôlée en permanence par des sondes. Et les premières doses sont très vite reparties vers les deux premiers sites de vaccination. 15 doses donc direction l'hôpital René Muret à Sevran en Seine-Saint-Denis. Et 30 doses pour le CHU de Dijon. Ils voyagent là décongelés dans des boîtes isothermes avec une température positive entre 2 et 8 degrés. Et dans ces conditions, ils ne peuvent être conservés que pendant 5 jours, le planning est donc millimétré. Les patients doivent être vaccinés au plus vite pour éviter les pertes.
Mathilde Vinceneux pour France Info. Il s'agit d'un défi logistique de très grande ampleur. On essaiera d'ajuster au mieux le nombre de façons à ce qu'il n'y ait pas de doses perdues, indique sur France Info le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France.
Et on y revient dans moins de 10 minutes sur France Info. Le vaccin qui arrive au moment où un premier cas de la variante du virus est détecté en France.
Il s'agit d'un Français qui est revenu il y a une semaine de Londres, là où il habite, asymptomatique, il est placé à l'isolement à Tours. Ses cas contacts sont toujours en train d'être recensés. Le problème, c'est que cette variante du virus est présentée comme beaucoup plus contagieuse que la souche actuelle du virus. Et c'est d'ailleurs ce qui a causé le gigantesque blocus des camions au sud de l'Angleterre ces derniers jours. Alors, évidemment, la crainte en France, c'est de voir tous les efforts pour contenir la reprise de l'épidémie mise à mal. Crainte partagée par Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
C'est sûr que ça risque de créer à nouveau une tension hospitalière ou du moins d'empêcher d'avoir un nombre de contaminations qui va descendre. Parce que les estimations montrent que cette augmentation de l'accrochage finalement par la protéine spicule du virus aux cellules permet probablement au virus d'être plus contagieux et ça veut dire que le R0 peut monter jusqu'à 0,4 points supplémentaires. Souvenez-vous, cette fameuse valeur dont il faut qu'elle reste en dessous de 1 pour contrôler la circulation du virus. Et en France, je crois qu'on est autour de 0,4. Et donc on voit bien que si ce variant commençait à devenir prépondérant, j'ai envie de dire, eh bien on serait très embêté pour avoir un contrôle durable de la circulation du virus. Et ça veut dire que probablement d'ores et déjà en Angleterre, ils réfléchissent à accélérer la campagne de vaccination pour prendre le pas sur le virus et pas se retrouver dépassé par les événements sur le calendrier vaccinal.
Et la variante du virus qui est détectée aussi en Allemagne à 50 km de Strasbourg. Et puis, premier cas aussi annoncé à l'instant du variant britannique en Espagne. Un chiffre donne une idée des conséquences dramatiques financières de la pandémie sur le secteur du tourisme. En France, les pertes sont de 20 milliards d'euros en 2020, selon le président des entreprises de voyage. Interrogé sur France Info, Jean-Pierre Masse indique que les Français sont moins partis en vacances en cette fin d'année. Ils sont majoritairement restés en métropole.
Écoutez France Info, il est 13h30. L'info Aurélien Tirard.
Après leur arrivée sous bonne escorte dans un hangar de banlieue parisienne, les premiers vaccins contre le Covid repartent en direction de deux EHPAD, là où auront lieu demain les premières injections en France à Dijon et à Sevran en Seine-Saint-Denis. 19 500 doses ont été livrées. On essaiera d'ajuster au mieux le nombre de façon à ce qu'il n'y ait pas de doses perdues, indique sur France Info le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Bruno Mamène rappelle qu'à partir du moment où les vaccins quittent les super supercongélateur. On dispose de 5 jours pour administrer le vaccin. L'Europe en ordre dispersé face à la hausse des contaminations. L'Autriche impose un troisième reconfinement dès aujourd'hui. Magasins, hôtels, salles de sport sont fermés au moins jusqu'au 18 janvier. Alors que dans le même temps, les stations de ski autrichiennes sont ouvertes. L'Irlande du Nord et l'Écosse reconfinent dès aujourd'hui aussi. Au Luxembourg, le couvre-feu est avancé à partir de 21h. Les Polonais ont jusqu'à lundi avant d'être reconfinés pour une période de 3 semaines. L'Europe aussi confrontée à l'arrivée du variant britannique du virus. 4 premiers cas confirmés en Espagne, en Allemagne à 50 km de Strasbourg et aussi en France, à Tours, où se trouve un homme placé à l'isolement. Il est revenu de Grande-Bretagne il y a une semaine. C'était là où il habite. Majoritairement resté en métropole.
Aurélien Tirard pour l'info. Merci Aurélien. Le variant du coronavirus se propage en Europe. 4 cas confirmés en Espagne. Cette variante détectée au Royaume-Uni il y a un peu plus d'une semaine. Un cas également en France, à Tours, contaminé donc par cette mutation observée au Royaume-Uni, détectée pour la première fois dans notre pays, à Tours. Un Français qui revenait de Londres, où il habite, il est asymptomatique et il est placé à l'isolement à cette heure-ci. Philippe Frogel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien endocrinologue au CHU de Lille. Cet exemple montre l'importance de tester systématiquement les personnes qui viennent de Grande-Bretagne.
Et puis l'importance aussi de séquencer le virus, puisqu'il y a un risque important. On l'a vu à Tours que les porteurs de virus venant d'Angleterre aient cette nouvelle variante qui est peut-être plus contagieuse, voire plus dangereuse que les autres.
Alors cette personne est placée à l'isolement, on l'a dit, et les personnes qu'il a rencontrées sont en train d'être répertoriées, c'est le traçage des contacts. Rappelez-nous comment ça se passe.
Ce qui se passe, c'est que je pense que cette personne a dû être un sujet contact puisqu'elle était asymptomatique. On lui a fait un test et puis comme elle venait d'Angleterre, le virus a été envoyé à l'Institut Pasteur, a été séquencé. On a retrouvé cette variante anglaise et là, on va rechercher quelles sont les personnes qui l'a contacté. Ça va pas être simple.
D'autant plus que en ce moment même, d'autres prélèvements positifs pouvant évoquer ce coronavirus variant sont en cours de séquençage par les laboratoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sans doute, il y aura d'autres zones de France qui seront concernées par ce coronavirus mutant ?
Il va y avoir d'autres zones, d'autant plus que dans quelques jours, ça sera plus les gens qui viennent d'Angleterre, mais la deuxième et troisième génération qui vont être porteurs de ce virus, ce qui veut dire qu'on n'aura pas l'idée de tester spécifiquement ce virus. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est de séquencer de manière aléatoire un certain nombre de gens positifs un peu partout en France, de manière répétée, pour savoir si cette souche nouvelle se répand en France ou si elle reste localisée à Tours ou dans quelques endroits.
Séquencer, ça veut dire séquencer les tests, ça veut dire rechercher la présence de ce virus-là, quoi, de ce coronavirus qui a muté.
Il n'est pas suffisant de regarder si cette souche est là. Il faut savoir si il n'y a pas d'autres souches nouvelles, si celle-ci n'a pas bougé, parce qu'elle va évoluer de toute façon. Et donc, la seule question, c'est comment on séquence le génome humain, et d'ailleurs exactement les mêmes machines et dans les mêmes endroits. On va séquencer l'ARN du virus et puis faire comme en Angleterre ou dans d'autres pays, savoir exactement quelle est l'apparition de nouvelles souches différentes des premières. Ça, c'est relativement facile. Le plus difficile, ça va être d'essayer de trouver des corrélations avec la maladie. Est-ce qu'elle est plus contagieuse ? Est-ce qu'elle est plus sévère ? Et ça demande un suivi des patients qui n'est pas obligatoirement très, très facile.
Oui, parce que c'est ce que nous disent les autorités anglaises. Ce virus n'est pas forcément plus dangereux, mais il est beaucoup plus contagieux. C'est encore à vérifier, ça ?
En Angleterre, c'est une simple coïncidence, c'est-à-dire que à Londres, où la souche nouvelle est importante, il y a eu une explosion du nombre de nouveaux cas, alors que c'était plutôt en baisse quelques jours plus tôt. Donc on en a déduit que c'était lié à cette souche. Il peut y avoir d'autres raisons. Mais plus on séquencera et plus on trouvera la souche, plus on sera capable de dire si oui ou non cette souche est plus dangereuse que les autres.
Dans cette crise, de toute façon, on a toujours besoin de mettre à jour les connaissances. Et c'est d'ailleurs pour cela que Moderna et Pfizer, qui ont mis au point les vaccins jusque-là, des vaccins ARN messagers, disent qu'en 6 semaines, ils pourront modifier ce vaccin. C'est possible, ça ?
Techniquement, c'est possible de modifier le vaccin. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faudra refaire des tests cliniques ou ceux qui ont été faits avant seront-ils suffisants? Parce que s'il faut refaire un test clinique, ça retarde de 3-4 mois à chaque fois. Donc ça, il faut que les autorités compétentes nous le disent. Tant qu'on aura des gens infectés, on va avoir des modifications. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer le mouvement sur la vaccination et en même temps faire très très attention, séquencer les souches, parce que il faut tout surveiller. Et je pense qu'en France, on n'a pas encore assez surveillé dans les derniers temps. Il y a d'autres pays comme l'Angleterre ou le Danemark qui ont fait ça mieux que nous.
À savoir, vous dites qu'on n'a pas assez surveillé, qu'on n'a pas été assez prudent en passant en couvre-feu après le confinement, c'est ça que vous voulez nous dire ?
Non, je discute pas du tout les questions de confinement. Mmh. Je discute le fait qu'on n'ait pas assez surveillé les souches virales, donc qu'on ne les ait pas assez séquencées. Il y a à peu près 0,5% des virus séquencés l'ont été en France, et c'est absolument pas suffisant pour qu'on fasse cette surveillance correcte. Et là, un certain nombre de scientifiques dont je suis ont proposé un réseau Sentinel qui s'appelle Senticov, avec le séquençage d'échantillons de plusieurs milliers de patients de manière répétée pour qu'on suive enfin ce qui se passe en France, puisque la situation française est quand même un petit peu ennuyeuse. On ne sait pas exactement quelle est la proportion de gens en France dans les différentes régions qui portent le virus. Et deuxièmement, on ne connaît même pas la nature de la souche. Donc on est un peu à l'aveugle.
Ce qui est dommage parce qu'on est un pays qui teste quasiment le plus en Europe.
Oui, on teste beaucoup, mais on ne sait pas exactement ce qu'on teste. On n'a pas d'idée très claire. Par exemple, en Angleterre, il y a une chose extraordinaire, c'est d'avoir utilisé une société française de sondage d'opinion qui s'appelle Ipsos, qui envoie à des personnes qui sont représentatives, par la poste, des tests salivaires, et des gens les renvoient par la poste. Et donc on sait en permanence, dans tous les endroits d'Angleterre, quelle est la proportion de gens qui portent le virus. Et en plus, comme des séquences, ils savent quel type de virus. Donc ils suivent ça mieux que nous.
Merci beaucoup, professeur Philippe Frogel, généticien et endocrinologue au CHU de Lille.
Nous allons parler maintenant de vaccins. Près de 20 000 doses de vaccins anti-Covid sont arrivées en France en vue des premières injections prévues demain en Seine-Saint-Denis et en Bourgogne. Mathilde Vinceneux, vous vous trouvez pour France Info dans l'un des centres de stockage d'Île-de-France où sont arrivés les précieux colis.
Le camion est arrivé très tôt, escorté par des motards de la police nationale. Le chauffeur a déchargé 4 cartons dans le hangar.
Donc 4, ce qu'on appelle des thermal shippers, donc 4 grandes caisses isothermes, dans lesquelles sont réparties l'ensemble des doses vaccinales contre le Covid.
Franck Huette est le directeur de cette plateforme pharmaceutique hospitalière.
Nous avons reçu donc l'équivalent de 19 500 doses d'injection, soit 3 900 flacons. Donc on va ouvrir les cartons, on va faire un contrôle de la température, savoir s'ils sont bien restés à moins 80.
Deux pharmaciennes s'équipent pour manipuler les précieux flacons au capuchon violet.
On a bien sûr à notre disposition des gants spécifiques, des lunettes spécifiques, comme il y a à l'intérieur de chaque carton de la carboglace pour éviter de se brûler. Et donc on va rentrer les flacons directement dans le congélateur qui se trouve vraiment juste à côté.
Un super congélateur sous clé. À l'intérieur, la température est contrôlée en permanence par des sondes. Elle doit osciller entre moins 60 et moins 80 degrés. Quelques doses ne passeront pas par ce congélateur. Elles repartent directement sous escorte vers les deux premiers sites de vaccination.
Une commande qui partira en Bourgogne pour l'équivalent de 30 doses. Et puis une deuxième commande qui partira dans un établissement de l'assistance publique. Une commande de 3 flacons pour 15 injections maximum.
C'est Anne Darchy, pharmacienne, qui dispose les flacons dans des petites boîtes isothermes.
Le fait de décongeler les flacons et de les mettre en température entre plus 2 plus 8 fait qu'ils maintenant ils doivent être utilisés dans les 5 jours.
C'est donc une course contre la montre. Une fois livrés, les hôpitaux et les EHPAD doivent vacciner au plus vite les patients pour éviter les pertes.
Mathilde Vinceneux qui reste donc sur la trace des premiers vaccins anti-Covid arrivés en France. Farida Nouar, quelle va être la suite du calendrier? Les premières vaccinations, c'est demain.
Oui, c'est ça. Alors, cette première étape, elle se poursuivra donc jusqu'à début février. Seront donc vaccinés les résidents d'établissements d'EHPAD ou ceux qui sont dans des unités de soins de longue durée. Les professionnels aussi qui travaillent dans ces établissements et qui eux-mêmes présentent un risque élevé. Ensuite, il y a la deuxième étape entre février et mars. D'abord, vacciner les personnes plus de 75 ans, puis celles entre 65 et 74 ans, et puis les professionnels de santé de plus de 50 ans. Alors, priorité dans toutes ces tranches d'âge à ceux et celles qui présentent des comorbidités. Et cette étape, elle visera près de 14 millions de personnes. Et puis enfin, il y aura la troisième étape. Là, elle concerne tous les personnels exposés et l'ensemble de la population. Et on est là à la fin du printemps. Alors, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui a reçu l'aval de la Haute Autorité de Santé chez nous. Vaccin efficace à 95% selon les deux entités. Et puis sachez aussi que c'est un vaccin qui se fait en deux temps. Après la première dose, il y en aura une deuxième 3 semaines après.
Et les premières vaccinations demain, on ne l'a pas dit, c'est à Sevran, en Seine-Saint-Denis et à Dijon, auprès de personnes âgées volontaires. Et je précise ça parce que cette vaccination, rappelons-le, n'est pas obligatoire.
Et non, elle n'est pas obligatoire. Vous décidez de vous faire vacciner ou pas. Alors pour ceux qui ne sont pas en capacité, par exemple des personnes qui n'ont plus leur faculté cognitive en EHPAD ou autre, eh bien c'est à leur famille, leur représentant légal de faire le choix. Si vous n'arrivez pas à vous décider parce qu'il y a trop d'informations, que vous êtes perdu, votre médecin traitant peut vous éclairer. C'est d'ailleurs lui qui pourra aussi vous injecter le vaccin en dehors des centres de santé ou des maisons de retraite. Un vaccin réalisé sur prescription médicale. Il y aura aussi une consultation pré-vaccinale en cas de contre-indication, comme par exemple des allergies. Et l'injection sera enfin gratuite pour tout le monde. C'est ce qu'a assuré le Premier ministre.
Avant de parler d'étrangers, puisque vous évoquez ces personnes âgées qui devront être consentantes, nous allons voir comment cela va se passer, notamment lorsque les pensionnaires n'ont plus leur capacité cognitive. Décision qui n'est pas forcément facile à prendre au sein des familles. C'est ce qu'a pu constater à Nancy Thierry Collin.
Faire vacciner ou ne pas faire vacciner, la question taraude de nombreux tuteurs légaux, notamment Chantal Briand. Sa mère a 92 ans et réside en EHPAD et elle a développé de multiples pathologies, dont une démence vasculaire.
C'est à nous que revient la lourde responsabilité de décider en fonction de critères qu'on n'a quasiment pas, quoi. Et là, on a l'impression que tout nous échappe, que finalement on va, je ne vais pas dire tous jouer aux apprentis sorciers, mais un peu. On n'a pas envie, on va dire, de rajouter à tous ces problèmes, surtout qu'en ce moment, même physiquement, elle n'est pas bien, quoi. Donc on se dit, ne serait-ce qu'une fièvre à plus de 40, on ne sait pas comment elle peut la gérer.
Et c'est loin d'être un cas isolé. Claire-Marie Lemonnier gère l'EHPAD de Colombey-les-Belles.
L'idée, c'est de pouvoir rencontrer chaque personne âgée de manière à pouvoir en parler, essayer de lever les résistances, d'arriver à un consensus.
Un travail de fond qui s'annonce long pour les équipes des maisons de retraite. Certaines ont déjà commencé à dialoguer avec les familles et les résidents.
Thierry Collin de France Bleu Sud-Lorraine. Farida Nouar, d'autres pays que la France commencent également leur campagne de vaccination en même temps d'ailleurs.
Oui, il y a l'Allemagne demain. Les autres pays organisent leur calendrier aussi à partir de dimanche. Et puis pour terminer, je vous donne un dernier chiffre. Selon Santé publique France, 40% des personnes interrogées disent aujourd'hui vouloir se faire vacciner selon l'agence sanitaire. Ils étaient 53% lors de la dernière enquête.
Farida Nouar et donc 20 000 doses de vaccins anti-Covid arrivées en France. D'ores et déjà, premières injections prévues demain en Seine-Saint-Denis et en Bourgogne.
France Info, 14h-17h, Bernard Thomasson.
À suivre, faut-il s'inquiéter du nouveau variant du virus qui est arrivé en France ces dernières heures? Ce sera après le fil info, il est 14h10, Armel Balogog.
Toute personne vaccinée sera suivie, donnée, enregistrée dans un fichier. La date de l'injection du vaccin, le lieu, le type, le nom du soignant. Base de données accessible d'ailleurs au personnel soignant. Ça vient de paraître au journal officiel. La campagne de vaccination commence demain dans deux EHPAD à Sevran et à Dijon. Ça représente 45 doses. Elles sont en train d'être livrées, parties ce matin d'un entrepôt pharmaceutique en Île-de-France, mais tenu secret. Et cet entrepôt stocke les 19 500 doses arrivée ce matin de Belgique. De plus en plus de cas du variant du coronavirus en Europe. Après le Royaume-Uni, il est maintenant en Espagne. 4 cas confirmés, d'autres en cours d'analyse. Un cas aussi en Allemagne et un autre en France.
Le nouveau variant britannique du coronavirus commence à essaimer en Europe. Il a été détecté en Espagne, en Allemagne également. Il est arrivé en France ces derniers jours. C'est un Français qui l'a ramené en rentrant pour les fêtes. Que sait-on exactement, Laetitia de Germont ?
Alors, ce Français réside à Londres. Il est arrivé en France le 19 décembre. Détecté positif au coronavirus, il a été pris en charge à l'hôpital 2 jours plus tard. Asymptomatique, il se porte bien. Il est actuellement isolé à son domicile. Les autorités sanitaires recherchent les personnes ayant été en contact avec lui pour les isoler. C'est pour le moment le seul cas confirmé en France, mais plusieurs prélèvements positifs pouvant faire évoquer le variant sont en cours de séquençage par les laboratoires du Centre national de référence des virus des infections respiratoires.
Cela signifie-t-il qu'il faut s'attendre à d'autres situations du même genre ?
Oui, même si la France a suspendu les déplacements en provenance du sol britannique le 20 décembre à minuit et pour 48 heures, il n'est pas impossible que d'autres Français soient porteurs de ce variant, d'autant plus que cette mutation a été repérée à 50 km de Strasbourg en Allemagne. C'est une femme qui, elle aussi, revenait du Royaume-Uni qui a été contaminée. Arrivée le 20 décembre, elle a été mise en quarantaine après avoir été testée positive à sa descente d'avion. Contrairement à la France, l'Allemagne a maintenu la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni jusqu'au 6 janvier.
Laetitia, ce nouveau variant est-il plus contagieux ?
Une étude britannique parle d'une contagiosité de 50 à 74% plus importante que la souche la plus répandue jusque-là. Selon l'infectiologue Benjamin Davido, ce variant va empêcher le nombre de contaminations de baisser et risque d'entraîner une tension hospitalière. Les estimations montrent qu'il permet au virus d'être plus contagieux. Cela veut dire que le R0, le taux de reproduction du virus, peut monter jusqu'à 0,4 points supplémentaires. Mais pour contrôler la circulation du virus, le taux doit rester en dessous de 1 et en France, nous sommes autour de 0,96. En Angleterre, ils réfléchissent à accélérer la campagne de vaccination pour ne pas être dépassés par les événements. Une décision qu'il serait bien de prendre en France, a estimé sur France Info l'infectiologue Benjamin Davido.
Explication signée Laetitia de Germont. Bonjour Sylvie Briand.
Bonjour.
Directrice des risques épidémiques et pandémiques à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Faut-il s'inquiéter d'une éventuelle propagation à travers l'Europe de cette variante dont on dit qu'elle est plus contagieuse ?
Bien, je pense que si le virus est plus contagieux, ça veut dire qu'il y aura plus de cas. Mais ça ne veut pas dire que ce virus est plus dangereux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément plus de cas graves. Mais en revanche, si la proportion de cas graves par rapport aux cas bénins reste la même, effectivement, ça peut avoir un impact sur les hôpitaux. Donc il faut quand même se méfier puis essayer de réduire la transmission au mieux.
Et si on regardait le verre à moitié plein, vous dites plus de cas, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait arriver à une immunité collective plus rapidement peut-être ?
Alors, c'est un peu l'évolution des virus respiratoires en général. Là, en fait, on est parti d'un virus animal avant qu'il se transmette à l'homme, puisqu'on pensait que l'origine du virus, c'était les chauves-souris. Donc, c'est un virus qui n'était pas très adapté à l'homme. Et donc, effectivement, plus le virus se transmet d'homme à homme, plus il va devenir adapté à l'espèce humaine. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il se transmette mieux, mais souvent aussi à justement provoquer moins de cas graves puisque les gens vont développer une immunité plus rapidement.
Dans un premier temps, en tout cas, et vous nous le confirmez, Sylvie Briand, le vaccin semble être la seule manière d'éviter le pire là, pour quelques semaines, quelques mois.
Le vaccin, c'est sûr que c'est un outil dans notre boîte à outils qui va être très efficace et très important. C'est pas le seul outil qu'on a, Dieu merci. On a vu que les gestes barrières, ça fonctionne très bien. On a vu aussi que réduire les foules dans des endroits fermés, peu ventilés, aussi réduit la transmission. Donc, je pense qu'il faut essayer de continuer avec les gestes barrières pour réduire ou ralentir cette transmission le mieux possible, parce qu'on sait aussi que quand donc, les beaux jours vont revenir, on va se retrouver beaucoup plus dehors et on aura beaucoup moins l'occasion de se transmettre ce virus.
Est-ce que de dire que le vaccin n'est pas la seule solution n'est pas apporter un petit peu d'eau au moulin des gens qui sont sceptiques face à ces vaccins ? Est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez là ?
Non, je pense que, faut être réaliste. Hein. Des vaccins, ils vont arriver petit à petit parce qu'il faut les produire. Il y aura plusieurs types de vaccins. Il y a plusieurs plateformes technologiques qui vont produire ces vaccins. Donc, on va les utiliser au fur et à mesure. Donc, vous avez vu, la vaccination commence. On commence par les gens les plus à risque de faire des maladies graves. Et puis après, on étendra au reste de la population. Mais on va pas de toute façon vacciner tout le monde à la fin du mois de janvier.
Ce vaccin ne présente aucun risque ?
Alors, donc il a été testé dans des essais de phase 3. Donc on a vu qu'il était, il était sûr. Évidemment, là on a commencé à l'utiliser. On a vu que les gens très allergiques, avec des profils très allergiques, avaient plus de risque de faire une réaction un peu forte. Donc effectivement, on est en train de vérifier que il sera sûr pour tout le monde.
Sylvie Briand, je rappelle, vous êtes directrice des risques épidémiques et pandémiques à l'OMS. On frôle, on l'a dit tout à l'heure, les 1% pour le taux de reproduction du virus en France, c'est-à-dire la situation où on est encore sous contrôle. Est-ce que cela risque de s'emballer après les fêtes? Et vous imaginez ma question corollaire, est-ce qu'on risque un nouveau confinement?
Alors en fait, le taux de reproduction qui est en dessous de 1, ça permet en fait une décroissance de la transmission. Puisque en fait le taux de reproduction, ça veut dire que si une personne est contaminée, si le taux de reproduction est égal à 1, elle va contaminer une autre personne, donc ça n'augmentera pas nécessairement. Alors ce qu'il faut éviter surtout pour ne pas augmenter justement le taux de reproduction, c'est des situations qu'on appelle amplificatrices, c'est-à-dire des grands rassemblements, des moments où il y aura effectivement beaucoup de gens non immuns en fait, qui vont pouvoir attraper le virus en même temps. Mais si on réduit ces occasions-là, avec un taux de reproduction autour de 1, on peut quand même réduire très, très significativement la transmission.
Donc tout se joue sur notre comportement à nous et notre responsabilité à chacun d'entre nous. Puisque vous parlez de situation à risque, tiens, j'ai une question très précise. À Monaco, les restaurants sont toujours restés ouverts. Or, ils ne représentent aucun cluster, aucun cas de contamination particulière. Comment l'expliquer quand on nous dit en France que c'est l'endroit justement le plus à risque?
Ben en fait les restaurants sont des lieux en général où on parle fort, qui sont fermés, peu ventilés, et où on a peu d'opportunités d'avoir la distance physique nécessaire. Donc c'est sûr que c'est des lieux qui sont considérés à risque. Après, si les mesures sont prises que les gens puissent effectivement respecter la distance physique, qu'on évite que les lieux sont bien ventilés et qu'on évite justement que les gens crient ou chantent, enfin qui vont donc éjecter beaucoup plus de virus qu'en temps normal, on peut réduire effectivement le risque même dans des endroits comme ça, mais ça demande quand même des mesures bien particulières.
Oui, en tout cas l'exemple de Monaco risque de tomber dans les oreilles des restaurateurs qui sont pas très contents.
Je pense qu'il faut aussi prendre en compte la circulation du virus autour du restaurant aussi, parce que si on est dans une zone où il y a une transmission intense, le restaurant devient un lieu amplificateur. S'il y a très peu de virus qui circulent autour, le risque est évidemment plus faible aussi. Donc c'est plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte.
Un dernier mot, vous êtes confiante pour les premières semaines de janvier sur la situation, le fait qu'on peut contrôler, parce qu'il y a beaucoup de maires qui disent qu'il faut reconfiner absolument immédiatement.
Alors moi je pense qu'il faut tout pour moi l'important c'est de voir comment le système de santé réagit, puisque parmi ceux qui vont attraper ce virus, beaucoup de gens vont faire une maladie assez bénigne et donc peuvent rester en isolement à la maison. Alors que évidemment le taux de transmission augmente très rapidement, ça va empêcher les hôpitaux de pouvoir faire face à l'afflux de patients. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est le taux de la transmission et voir si le système de santé autour peut faire face.
Merci beaucoup Sylvie Briand.
Merci,
directrice des risques épidémiques et pandémiques à l'OMS.